Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric et bon anniversaire Bernadette.
Ah bon, on va le savoir.
Bon anniversaire Bernadette.
Elle vous remercie, elle est dans le fond du studio, mais elle vous remercie.
C'est la main verte d'Alain Baraton. Aujourd'hui, vous allez nous parler, Alain, du papyrus. Ça passe par la Société Nationale d'Horticulture de France, qui possède, depuis jeudi, une nouvelle bibliothèque.
Une bibliothèque qui conserve plus de 10 000 ouvrages français et étrangers du XVIe siècle à nos jours, 1290 titres de périodiques anciens et contemporains, mais aussi de nombreux catalogues commerciaux et des documents de grande valeur, photographies, gravures, lettres, autographes et vieux papiers.
10 000 ouvrages et notamment le mot papier qui est emprunté de l'italien paper.
Eh oui, c'est exact, mais soyons encore plus précis pour faire plaisir à Patricia Martin. Paper qui est issu de papyrium, altération du latin papyrus, du grec papyros qui signifie roseau d'Égypte, autre nom du papyrus.
Il y a donc un lien étroit entre le mot papier et papyrus.
Eh oui, papyrus a donné son nom au papier, l'occasion de rappeler que le papyrus pousse en Égypte, en Syrie, en Palestine ou encore en Sicile. La plante produit une longue tige qui peut atteindre 5 mètres de hauteur et qui porte à son extrémité des feuilles disposées en étoile. Contrairement aux idées reçues, le papyrus n'est pas seulement utilisé pour faire du papier. Le bois de ses racines sert à faire du feu, pratique dans les régions qui manquent d'arbres, et aussi à fabriquer des instruments de musique. Il faut dire que les racines sont vraiment d'un diamètre assez impressionnant. Eh bien, le bois de l'écorce est aussi du papyrus utilisé pour tresser des voiles et des couvertures, des étoffes, des cordes et même des embarcations.
Et est-ce qu'il faut rappeler que le papyrus servait à fabriquer le papier ?
Eh oui, et pour ce faire, les artisans prélevaient de fines lamelles dans la tige. Ces fines tranches étaient ensuite superposées, compressées, humidifiées, puis collées avec la sève de la plante. 20 feuilles donnaient un rouleau désigné en latin par le mot volumen, volume. Le commerce du papier débute véritablement au 5e siècle avant Jésus-Christ à Gubal ou Gubla, une ville de l'actuel Liban, plus connue sous son appellation grecque Byblos. Celle-ci devient si importante dans le commerce du papier, eh bien qu'elle donnera son nom à Bible, qui signifie le livre. Alors à propos, et pour revenir à la bibliothèque de la Société d'Horticulture de France, je vous invite, Eric, et tous ceux qui nous écoutent bien sûr, à aller sur le site SNHF, Société Nationale d'Horticulture de France, pour tout savoir sur cette association née il y a 190 ans et qui a pour objectif d'échanger, de promouvoir et préserver tout ce qui a trait à l'horticulture. Consultez ce site, vous verrez, c'est passionnant.
Société Nationale Horticulture de France, SNHF. Alain Baraton, on va répondre aux inquiétudes et aux questions de certains auditeurs, auditrices. Françoise, par exemple. J'habite le nord de la France, dit Françoise, et j'aimerais savoir si les artichauts supportent le froid.
Ah, l'artichaut est une plante un petit peu frileuse, originaire, je vous rappelle, d'Afrique du Nord. Donc il sera conseillé d'Afrique du Nord, et puis après il est parti en Italie.
Et en Bretagne, après.
Bien plus tard. Donc l'artichaut, bien pour bien le cultiver dans le nord de la, au nord de la Loire, il est conseillé en hiver de couper les branches, les feuilles si vous préférez, et de recouvrir le pied d'un épais tapis de paille. Ainsi vous pourrez le protéger durablement du froid, et l'année suivante vous retirez la protection et l'artichaut repartira de plus belle.
Georges vous demande, est-il préférable de planter les arbres fruitiers à l'automne ou à la fin de l'hiver?
Lorsque j'étais jeune, il y a quelques années
hier,
c'est très aimable, on me disait dans les écoles que j'ai fréquentées qu'en plantant à l'automne, on gagnait 2 saisons. Et effectivement, quand vous plantez au printemps, le végétal doit immédiatement produire des fleurs, des fruits et avant, bien sûr, des feuilles. Et donc, cette obligation de vivre fatigue le végétal. Il aura donc du mal à s'enraciner. En le mettant maintenant en automne, eh bien, il va pouvoir s'installer tranquillement, produire ensuite des feuilles, des fleurs et des fruits et bénéficier surtout de la terre humide de l'automne et de l'hiver. Donc, il est préférable, plus que préférable, fortement conseillé de planter maintenant, ou du moins dans quelques jours, on ne se précipite pas trop non plus.
Plutôt qu'au printemps où il serait très sollicité.
Tout à fait, et j'en profite pour rappeler que la meilleure saison pour planter un végétal, c'est pendant le repos végétatif. On attend donc que les feuilles des arbres soient toutes tombées, ce n'est pas encore le cas.
Noémie vous demande comment faire pour que le muguet de mon jardin soit fleuri pour le 1er mai.
Eh ben c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout parce que en fait le muguet se joue de la lumière et il faut jouer sur l'obscurité, l'ensoleillement et les producteurs qui permettent tous les ans le 1er mai d'offrir des brins sont de grands spécialistes, de grands professionnels. Donc ce qu'il faut savoir une solide connaissance botanique, de solides connaissances en jardinage, jouer sur la lumière, jouer sur la pluie, jouer sur le panneau et dépannotage du muguet, vous l'avez dit vous-même, c'est pas gagné.
Est-il exact, vous demande Boris, exact ou pas, que les serpents adorent se cacher dans l'herbe de la pampa?
Ah, l'herbe de la pampa, Gynerium cortellarium pour faire chic. Quand on était enfant dans le sud-ouest, on pensait qu'effectivement ces touffes d'herbe... Vous savez, l'herbe de la pampa, vous connaissez, ce sont de grandes herbes avec des grands plumets. C'était très à la mode dans les années 60-70, il y en avait pratiquement dans toutes les maisons un petit peu élégantes, je parle plutôt des jardins, et on pensait que les vipères, les couleuvres adoraient s'y réfugier. Alors peut-être, mais pas davantage que dans un buisson ou au pied d'un arbuste. Donc, toutes les plantes peuvent servir de refuge à un serpent. Je vous rappelle que le serpent, dès qu'il vous voit, vous entend, en admettant qu'il entende.
Il fuit.
Eh ben, il fuit. Mmh. Donc, il n'y a aucun problème, bien évidemment.
Claudine vous demande si les feuilles de son saule pleureur, elle dit que les feuilles de son saule pleureur sont tachées de noir et elle ne sait pas quoi faire.
Eh ben, c'est pas drôle du tout parce qu'il s'agit très certainement d'anthracnose. L'anthracnose est une maladie cryptogamique qui va affecter les feuilles ne pouvant plus assumer correctement la photosynthèse, la plante en souffle, les feuilles tombent et l'arbre risque fort de mourir. De plus, quand les feuilles tombent, on a tendance à les laisser se décomposer dans la terre, grave erreur, parce que en hiver, eh bien, les spores continuent de favoriser la dissémination du champignon. Donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est ramasser toutes les feuilles, les évacuer mieux, les brûler et espérer que la maladie disparaisse au printemps suivant. Mais ce n'est pas gagné là encore.
Denise, est-il judicieux d'utiliser des produits lustrants pour faire briller les plantes vertes?
Si vous souhaitez enrichir les fabricants, oui, bien sûr, c'est judicieux. Si vous souhaitez préserver l'environnement, ça ne l'est pas. Et je vous rappelle qu'un petit chiffon ou un petit coton imbibé d'eau fera le même effet.
Qu'est-ce qu'on appelle un produit lustrant fabriqué?
Ce sont les produits aérosols que l'on met sur les plantes vertes pour que les feuilles brillent.
Et ça, c'est tout sauf naturel.
C'est pas naturel. En plus, quand on les utilise mal, on brûle les feuilles. Ce sont des produits pratiques pour les fleuristes qui se doivent, bien sûr, de vendre des végétaux qui ont de l'éclat. Ils ont autre chose à faire que de nettoyer les feuilles une par une. Mais quand on est particulier, qu'on prenne au moins le temps de soigner ces petites plantes d'intérieur.
Une dernière question pour vous, Alain Baraton. Marie-Antoinette vous demande comment...
Marie-Antoinette,
une amie. Comment se débarrasser des cochenilles qui ont envahi son cactus?
Il n'y a rien de plus simple à la brosse à dents. Alors, pas celle que vous utilisez tous les jours, bien évidemment.
On va changer de brosse à dents.
Une vieille brosse à dents. Parce que mettre des produits n'a aucun intérêt. Le cacté ou cactus a une écorce véritablement lisse. On voit les bestioles. Il suffit simplement de les évacuer à la brosse à dents, de renouveler l'opération régulièrement et elles finiront par disparaître d'elles-mêmes.
Eh bien, merci pour tous ces bons conseils, Alain Baraton, et à samedi prochain.
À samedi.